Chapitre 5. Il s'attend sans doute à une certaine réaction de ma part. Il est décontenancé de voir que je reste indifférente. Ça ne sert à rien de pleurer ou de crier. Je n'ai jamais aimé les hôpitaux. À chaque fois que j'y ai mis les pieds, c'était à cause d'une blessure grave. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je viens à peine d'être libérée de l'emprise d'Ahmed. Je suis sur le point de me débarrasser de ceux qui m'en veulent. Je serai une menteuse en disant que la mort ne me fait pas peur. Peut-être que c'est le prix à payer pour toutes les vies que j'ai ôtées et pour la mort de Sam. Tout le mal qu'on fait nous est nécessairement rendu à un moment donné. Le docteur ouvre la bouche, sûrement pour m'annoncer ce que j'ai, lorsqu'on entend une vibration. C'est mon téléphone, posé sur la table de chevet, juste à côté du lit, qui vient de retentir. Le médecin me regarde, il s'apprête à attraper mon téléphone pour éviter que je décroche, mais je le récupère avant. Il me lance un regard rempli de désapprobation que j'ignore. Je décroche. « Un souci, Mathieu ?»« Bonjour, mademoiselle », me dit une voix inconnue. Cette voix n'est pas celle de mon ami. Je fronce les sourcils et avale difficilement ma salive. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous le téléphone de Mathieu ?» Je demande avec suspicion. Je me redresse sous le regard médusé du docteur. « Je suis un infirmier. Votre ami a eu un accident de voiture et vous étiez le numéro à contacter en cas d'urgence. » Au mot « accident », je me raidis immédiatement. Mathieu était avec Iliane. J'espère qu'ils vont bien. Il a été pris en charge? Est-ce que son pronostic vital est engagé? Il est conscient? Je le questionne rapidement. Calmez-vous, mademoiselle. Il va très bien et son petit frère aussi. Ils sont installés dans une chambre d'hôpital. Pour éviter qu'ils se plaignent des douleurs, on a préféré leur donner de la morphine. Ils ne vont pas se réveiller avant quelques heures, mais vous pouvez venir les voir. On voulait juste vérifier que tout allait pour le mieux, mais ne vous inquiétez pas. Ils sont hors de danger. Je laisse échapper un soupir de soulagement. Vous pourriez m'envoyer l'adresse de l'hôpital dans lequel il se trouve, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'envoie sur votre numéro de téléphone. Merci beaucoup. Je raccroche. Mon téléphone vibre à nouveau. L'hôpital n'est qu'à quelques minutes du mien. Je retire à la hâte mes perfusions. Je sors du lit. Le médecin s'approche en vitesse pour m'attraper par le poignet. Je hausse les sourcils. Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle? Où comptez-vous aller? M'interroge le médecin en soupirant. Mon meilleur ami et son petit frère ont eu un accident. Il faut absolument que j'aille les voir. Il fronce les sourcils. Il est hors de question que vous partiez d'ici. Vous venez à peine de vous réveiller, c'est trop risqué. S'insurge le médecin. Je suis désolée, c'est une urgence. Je sais qu'il ne veut que mon bien, mais ce n'est pas le moment de penser à moi. Vous êtes complètement inconsciente. Vous vous rendez compte que vous avez failli mourir. Comment pouvez-vous envisager de ressortir dehors comme si de rien n'était? Je n'ai même pas eu le temps de vous renseigner sur ce qui s'est passé. Je soupire. J'ai vécu 20 ans sans connaître l'existence de cette maladie dont je souffre. Je peux bien vivre une journée de plus sans savoir. Mes amis ont besoin de moi. Je dois être présente pour eux. Je vous promets de revenir. Il me regarde, abasourdi que je néglige ma santé à ce point. Il faut que j'aille rejoindre Mathieu et Iliane. Je signerai toutes les décharges que vous voulez, mais laissez-moi partir, s'il vous plaît. Il finit par lâcher mon poignet en voyant mon regard suppliant et en comprenant l'urgence de la situation. Je le remercie d'un léger sourire. J'ai besoin de vêtements propres, s'il vous plaît. Il utilise le talkie-walkie accroché à sa blouse pour demander qu'on me ramène des vêtements propres. Il sort une carte de sa poche, qu'il me tend. Je la prends. Mon numéro de téléphone et mon nom sont indiqués. Dès que vous aurez 1 minute, téléphonez-moi, s'il vous plaît, c'est important. Je n'ai pas le temps de vous dire de quoi il en retourne maintenant puisque vous êtes pressé, mais je vous en conjure, téléphonez-moi. Je promets de vous appeler. Merci, docteur. Il affiche un sourire rassurant. Je le lui rends et il quitte ma chambre d'hôpital. Quelques heures plus tard. Hôpital, 20h45. J'arrive dans l'hôpital où sont mes deux amis. Je me dirige vers l'hôtesse d'accueil qui me regarde étrangement. Je dois ressembler à une folle. Je l'ignore. Après lui avoir donné le nom de famille de Mathieu, elle cherche sur son ordinateur et m'indique le numéro de chambre. Je la remercie et me dirige vers l'ascenseur dont les portes sont en train de se refermer alors qu'un homme entre à l'intérieur en courant, bloquant ainsi la fermeture. Il me regarde brièvement, mais en remarquant ma tenue, il détourne immédiatement le regard comme s'il s'était rendu compte que je n'étais pas la personne qu'il connaissait. Ma tenue ne me met pas à mon avantage et elle ne me ressemble pas. Je porte une chemise à carreaux rouges, un jean slim beige et des baskets bleu marine. L'homme à mes côtés est vêtu entièrement de noir, blanc de peau, le crâne dégarni, la trentaine, des petits yeux marron foncé, un nez crochu et des lèvres fines. Il doit faire 2 à 3 têtes de plus que moi. Il est bâti comme une armoire à glace. Mais ce qui éveille mes soupçons, c'est le fait qu'il n'appuie pas sur le bouton de l'étage. Je me rends au 9e. Il doit s'arrêter au même étage. Arrête de voir le mal partout, Chiara. Tu vas finir par devenir complètement paranoïaque et te méfier de tout. Nous arrivons enfin. Il sort de l'ascenseur et se dirige vers la droite et je vais à gauche. Les couloirs sont vides. On n'entend aucun bruit. Cela dit, il est déjà tard. Les visites sont bientôt terminées. J'arrive dans la chambre, j'aperçois Mathieu et Iliane couchés sur des lits individuels, endormis. Je me rapproche tout d'abord d'Iliane. Il a un bleu à l'œil droit et une égratignure en dessous de l'œil. Je passe ma main sur son visage et dépose un baiser sur sa joue. Repose-toi bien, mon petit Iliane. Mathieu, lui, a un pansement au niveau du front et sa lèvre supérieure est fendue. Je dépose également un baiser sur sa joue. J'ajuste leur couverture quand j'entends des pas dans le couloir qui semblent se diriger vers notre chambre. Je me cache instinctivement derrière la porte pour voir qui entre. J'ai un mauvais pressentiment. Une fois la porte ouverte, je reconnais le type de l'ascenseur. Je savais que j'avais raison de me méfier. Je veux voir ce qu'il compte faire avant d'intervenir. Il observe mes 2 amis endormis puis se rapproche d'Iliane. Il attrape un coussin posé sur la table de chevet à côté du lit. Je comprends immédiatement ses intentions. Se lâcher là pour s'en prendre à Iliane. Ça doit être un homme de main de l'autre bâtard. Avant qu'il puisse utiliser le coussin pour étouffer Iliane, j'attrape le pot de fleurs déposé au sol, près de la porte. Je me rapproche de lui en marchant doucement, mais il se retourne avant que j'aie pu le prendre par surprise. Je lui jette alors le pot en pleine tête. Il est sonné, mais il ne s'écroule pas pour autant. Vu sa carrure, ce n'est pas un simple pot de fleurs qui va le faire vaciller. Il lâche le coussin et m'attrape violemment la gorge en me soulevant d'une seule main. Mes pieds ne touchent plus le sol. J'essaie de retirer ses mains de mon couvènement. « Je savais que c'était toi, même si tu n'es pas habillée comme la garce que t'es !» Je l'assassine du regard tandis qu'il me maintient toujours en l'air. Il me balance au sol. Je fais tomber une boîte contenant du matériel médical en essayant de m'agripper à une table de chevet. Je tousse légèrement, puis je me relève en vitesse. « Tu ne le tueras pas !»« Et c'est toi qui vas m'en empêcher, peut-être !» se moque l'homme de main. Je le défie du regard tandis qu'il émet un grand sourire. Je m'avance vers lui et le tape en plein ventre avec mon poing. Il ne sourcit pas. J'enchaîne en lui envoyant plusieurs coups de pied, mais il reste insensible à mes frappes. « Tu cognes bien, mais face à moi, ça sert à rien !» Il s'apprête à me donner un coup de poing, mais je l'esquive. J'en profite pour répliquer avec un coup de pied dans son entrejambe qui lui fait enfin perdre l'équilibre. Ça fonctionne toujours. Mais il se relève rapidement et me pousse sur le sol. Il monte sur moi et serre à nouveau mon cou avec ses mains. Sa prise est si forte malgré mes tentatives pour me débattre que j'ai l'impression que je vais y passer. « C'était pas prévu de te buter, mais tu vas crever, sale pute, et ensuite je tuerai le gosse et ton autre pote. » Je lui crache au visage et je tâte le sol à la recherche d'un outil qui pourrait m'aider à me débarrasser de son emprise. Je suis sur le point de perdre connaissance quand mes mains entrent en contact avec une paire de ciseaux. Elle a dû tomber de la boîte en même temps que les autres instruments. Je lève alors la main, armée des ciseaux et d'un coup, je les plante en plein milieu de sa carotide. J'appuie pour m'assurer qu'ils sont bien rentrés. Il me lâche enfin en posant sa main sur son cou qui saigne. Il me dévisage avec haine et s'écroule. Je me redresse et tente de retrouver un rythme cardiaque normal. Je suis de dos, mais j'entends la porte de la chambre s'ouvrir. Je déglutis. S'il s'agit d'un infirmier ou d'un médecin, je ne sais pas comment je vais expliquer la présence d'un homme mort avec une paire de ciseaux dans la carotide. C'est quoi cette merde? Mais cette voix est familière. C'est celle d'Eymen. Je soupire de soulagement. Mon cœur se réchauffe en voyant qu'Amir l'accompagne. Je suis prise d'une envie soudaine de sauter dans les bras d'Amir. mais je m'abstiens.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Demande Amir. J'inspire et raconte. Il me regarde, choqué, mais Amir redevient vite impassible, comme d'habitude, alors qu'Aïmen est hors de lui. Ce bâtard voulait s'en prendre à un gosse endormi. Heureusement que t'es arrivé avant nous. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait produit. Soupire Aïmen. Je ne regrette pas d'avoir choisi de partir de l'hôpital où j'étais sans avoir eu les réponses à mes questions. Il faut se débarrasser du corps et faire le ménage en vitesse avant que les gardiens de nuit ou les infirmiers passent. Souligne Aïmen.
Je m'en charge.
Dit Amir.
Mes hommes vont venir faire le travail.
Il envoie différents messages par téléphone, mais je ne suis pas convaincue par son plan. Les visites sont bientôt plus autorisées. Les portes ne vont pas tarder à se fermer.
Qui t'a dit qu'ils allaient passer par les portes? Ils seront là d'ici 5 minutes, t'inquiète.
Une efficacité incroyable. Mathieu et Yilian dorment toujours grâce aux médicaments. Ils ont bien de la chance. J'ai failli mourir devant eux et ces deux marmottes n'ont pas ouvert un œil. Mathieu aurait fait un malaise face à tout ce sang. L'hôpital m'a appelé pour me prévenir, mais vous, comment avez-vous su pour l'accident? Je les questionne.
Nous faisons aussi partie des numéros d'urgence à contacter en cas de problème pour Mathieu.
Précise Amir en haussant les épaules. Je hoche la tête.
On devrait se tirer. Mes hommes ne vont pas tarder à débarquer. Il ne faut pas qu'on soit dans leurs pattes.
Kiara, ouvre la fenêtre. M'ordonne Aïmen. Je les regarde avec incompréhension. Comment ils vont entrer? Je demande.
Yamakasi,
répond Amir. Je hausse les sourcils. Comment ça, Yamakasi?
Ce sont les acrobates des temps modernes. Depuis qu'ils sont gamins, ils se baladent d'immeuble en immeuble pour des cambriolages ou autres. Ils sont redoutables. T'inquiète pas pour eux, ils vont gérer. Je vais leur dire de rester cette nuit pour veiller sur eux et de partir avant que le personnel revienne. L'hôtesse nous a dit qu'ils sortiraient demain. Ils les gardent juste pour une nuit d'observation.
Ajoute Amir. Il me regarde de haut en bas.
Tu fais quoi habillé comme ça, toi?
Je me souviens que je porte les vêtements qu'on m'a donnés à l'hôpital. Rien. Villa Ben Khalif, 23h56. Après cette journée de folie, tout ce que je souhaite, c'est me détendre et essayer d'oublier les derniers événements. J'enfile mon peignoir en dessous duquel j'ai mis mon maillot de bain pour aller dans le jacuzzi. Aïmen a rejoint Erika dans un lieu secret et Amir est sorti pour régler une affaire urgente. Lorsque j'arrive devant le jacuzzi, Amir est installé de dos, appuyé contre l'un des rebords, une cigarette à la main dont il recrache la fumée à plusieurs reprises. Ses yeux sont fermés et il semble lui aussi se détendre. Je ne pensais pas qu'il était déjà rentré. Il n'a visiblement pas remarqué ma présence. Je reste comme une idiote à l'observer jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux. Il me lance un regard étonné, puis l'étonnement se transforme en un petit air malicieux. « Je savais pas que t'étais là. » Je lui lance un peu gêné.
« Viens. »
m'invite Amir en souriant. Hésitante, je finis par retirer mon peignoir. Il me déshabille du regard avec un sourire en coin tout en déposant le mégot de sa cigarette dans le cendrier à côté de lui. Il observe mes courbes comme s'il ne les avait jamais vues. J'ai enfilé un bikini jaune vif qui fait ressortir mon teint mat et qui met en valeur mes courbes qui semblaient éveiller tous les sens d'Amir. J'entre dans le jacuzzi sous son regard malicieux qui ne cesse pas de me scruter. L'eau est brûlante.
« Tu peux te rapprocher, je mords pas. »
plaisante Amir. Je lui offre un léger sourire en coin puis j'avance vers le milieu du bain. Je reste plantée là à profiter de l'eau qui me réchauffe.
« C'est moi qui dois venir, c'est ça ?»
me demande-t-il. Il s'avance alors vers moi. On se détaille et il passe ses mains autour de ma taille pour me coller fermement contre lui. Je laisse échapper un rire amusé quand je me sens propulsée vers son corps. Il pose son regard sur mon cou et fronce les sourcils. Je ne comprends pas pourquoi il s'assombrit d'un coup. Il avait l'air de bonne humeur.
« C'est ce bâtard qui t'a fait ça ?»
Je le regarde avec confusion. « Quoi ?»
T'as des traces d'étranglement autour du cou et t'as une lèvre avec du sang séché.
Je soupire. Ce ne sont ni les premières, ni les dernières blessures que j'aurai.
Ce n'est rien. On aurait dû arriver plus tôt avec Aïmen.
Je lui souris avec tendresse. Il semble s'en vouloir de ne pas avoir pu me défendre. Quand il se comporte ainsi, j'ai la sensation de compter. J'ai géré, t'inquiète, comme toujours, dis-je en affichant un sourire malicieux. Pour une fois, c'est moi qui vais mener la danse. Je me retire de son emprise pour sortir du jacuzzi et m'asseoir sur le rebord, seuls mes pieds touchent l'eau.
Je croyais que tu voulais profiter du bain.
Je lui lance un regard aguicheur en me mordillant la lèvre. Je préfère profiter de toi, je précise. Avec un grand sourire, il se dirige vers moi d'un pas rapide. Il pose ses mains sur mes genoux et les écarte pour se placer entre mes jambes. Nous sommes au même niveau puisque je suis assise un étage au-dessus de lui qui est à l'intérieur du jacuzzi. Je ne l'avais jamais vu sous cet angle. Je n'ai le temps de rien dire qu'il presse mes lèvres contre les siennes. Nos langues jouent ensemble, elles se complètent. Je sens de fortes palpitations et le désir nous envahit mutuellement. On se recule l'un de l'autre pour reprendre notre respiration et Amir me lance un regard brûlant de désir. Je sais qu'il en a envie tout comme moi.
T'imagines pas l'effet que tu me fais, poupée.
Il sort du jacuzzi, puis revient quelques minutes après avec des préservatifs en main. Il se rapproche de mon cou et y dépose des baisers. Je me retiens de le toucher. Ses doigts glissent jusqu'à atteindre le tissu de mon bikini qu'il déchire d'un violent coup. C'était un de mes bikinis préférés. Il laisse échapper un rire amusé. S'il déchire tous mes vêtements à chaque fois, je n'aurai plus rien à me mettre.
Je t'en achèterai des milliers pourvu que tu me laisses tous les déchirer.
Ma poitrine se retrouve à sa merci. Il se rapproche de mon sein droit qu'il mordille. Je me mets à gémir de plaisir. Mon esprit ne répond plus qu'au désir ardent qui s'empare de moi. Il alterne entre les deux côtés. Je me mets à griffer son dos tout en haletant. Il dirige son regard vers le bas de mon bikini qu'il déchire également. Il pose ses mains sur mes cuisses, m'attrape violemment pour me rapprocher de lui. Je me retrouve rapidement dans le jacuzzi. Il m'embrasse de nouveau et son baiser se fait de plus en plus sauvage. Nos langues sont en parfaite osmose, comme si elles étaient faites pour se rencontrer. Je suis totalement nue alors qu'il porte encore son boxer. D'un geste vif, je baisse son sous-vêtement pendant qu'il embrasse chaque parcelle de mon cou. Je sens son membre durcir contre moi. L'empressement d'Amir me laisse deviner qu'il est sur le point de craquer et de me pénétrer violemment, mais il se retient du mieux qu'il peut. J'apprécie sa patience. C'est pour ça que je décide de prendre une initiative. Pendant qu'il titille le lobe de mon oreille droite en le mordillant, je pose ma main sur son intimité. Il cesse tout mouvement et se fige.
« Tu ne sais pas ce que tu vas provoquer. Retire ta main, c'est un conseil. »
J'affiche un sourire en coin. Il ne bouge plus. Il semble tétanisé et ça me donne l'impression d'être la maîtresse du jeu. J'ai toujours préféré demander pardon plutôt que la permission. Je me mets à exécuter des va-et-vient sur son membre alors qu'il me jette des regards de prédateur. Je le sens si dur et si gonflé.
« Putain, Chiara !»
Il ferme les yeux. Il semble pris d'un plaisir ardent auquel il ne peut résister. Je cherche à l'embrasser lorsque son téléphone sonne, ce qui le fait grogner de frustration puis soupirer. Je retire ma main et il sort rapidement du jacuzzi, contrarié. Il grogne une nouvelle fois en voyant le nom de la personne qui l'appelle.
« Je vais lui couper les couilles. »«
C'est qui ?»«
Mathieu. » »«
Mets-le sur haut-parleur. » Amir s'exécute.
Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais pas que je suis occupée ou quoi?
Je lâche un rire amusé en voyant qu'il est énervé d'avoir été interrompu. Je sors d'un accident de voiture qui aurait pu me coûter la vie, alors cesse de gueuler. Tu peux m'expliquer pourquoi il y a des hommes habillés en noir et armés comme s'ils se préparaient à braquer une banque en train de nous regarder dormir, Iliane et moi? On dirait qu'ils sortent tout droit de Men in Black. S'offusque Mathieu.
Ils sont là pour assurer votre sécurité.
Répond Amir avec nonchalance. De quoi tu parles?
Mathieu, je suis occupé. T'attendras demain pour avoir des informations.
Je rigole. C'est quoi ce rire féminin? C'est une blague? J'ai failli y passer et toi tu sautes une inconnue? Hurle Mathieu. Je me retiens de justesse d'éclater de rire une nouvelle fois. Il ne vaut mieux pas que Mathieu apprenne que l'inconnue qu'Amir saute, c'est moi. Il risquerait de faire un malaise.
« Arrête de faire l'intéressant. Le pire que tu risquais avec ton accident, c'était un bras cassé. »
Rétorque Amir.
« Non mais j'hallucine. Pendant que je souffre, tu baises. » Eymen et Kiara sont aussi portés disparus. Je suis souffrant, il me faut de la compagnie, répond Mathieu.
Si seulement il savait.
Arrête de faire ton cinéma, rendors-toi. Et si tu n'arrives pas à trouver le sommeil, cogne-toi la tête contre un mur.
Conseille Amir.
Si je meurs cette nuit, tu auras ma mort sur la conscience,
crie Mathieu.
Je prends le risque, je peux vivre avec,
confesse Amir.
Espèce d'ami indigne, t'es une personne sans...
Amir ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase qu'il raccroche. Il dépose son téléphone et enfile un préservatif avant d'entrer dans le jacuzzi pour me faire face.
Ne m'en veux pas, poupée, mais les préliminaires vont devoir sauter.
Je souris pendant qu'il m'attrape par la taille pour me tirer vers lui. D'un coup de rein rapide et fort, il me pénètre et je laisse échapper un gémissement de plaisir. Ses va-et-vient sont violents et rapides. Ils me provoquent une légère souffrance, mais surtout un plaisir immense. Je me cambre sous ses coups. Je mords son épaule pour éviter de crier trop fort tout en lui griffant le dos. Nous atteignons le point de non-retour quasi simultanément. Il se retire. Je ne parviens presque plus à tenir debout tant mes jambes tremblent. Il le remarque car il m'attrape par la taille pour me maintenir.
Tu veux pas te mettre à boiter, poupée?
Connard. Ça ferait trop plaisir à son égo. C'était du sexe pur et dur, pas de l'amour. Ça n'existe pas.